France Musique.
Mais tout de suite, nous sommes en compagnie d'un musicien en pleine forme, je dirais même plus un artiste qui a toujours une forme olympique, en dépit de quelques embûches pas très fair-play qui se sont abattues sur lui. Et sur son ensemble, il y a quelques temps, le concert de la Loge, obstacle jeté par de grands représentants du sport justement. Mais il est là aussi et avant tout violoniste et membre du quatuor Cambini. Il sera l'invité des promenades musicales en Pays d'Auge le 26 juillet en compagnie du pianiste Rémi Cardinal. C'est Julien Chauvin qui vient nous voir ce matin sur France Musique.
Thank you.
Le final de la symphonie en ut majeur, la quatrième de Henri-Joseph Rigel, interprété par le Concert de la Loge et son patron, le violoniste Julien Chauvin, qui est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Clément.
Merci d'être avec nous dans le Réveil Classique ce matin sur France Musique. Qui c'est ce Rigel?
Ben Rigel, il fait partie des étrangers qui sont venus, je le dis un peu fermement, parce que à l'époque, Paris est un grand centre musical européen, et beaucoup de compositeurs viennent vivre, essayer de se faire jouer, de composer pour les orchestres qui sont résidents à Paris. Et Rigel, il fait partie, voilà, de ces musiciens émigrés. Il est allemand et il a fait toute sa carrière finalement à Paris. Il a écrit notamment des oratorios qui sont magnifiques et de nombreuses symphonies, dont cette symphonie qui est on le disait, dans cet esprit du Sturm und Drang, mais vraiment à la française. Donc il apporte vraiment quelque chose de, parce que le courant Sturm und Drang, il est vraiment né en Allemagne, et je pense que vraiment il a avec d'autres compositeurs, il a amené ce courant dans certaines œuvres qu'on va trouver chez beaucoup de compositeurs.
Il l'a décliné version française.
Absolument.
Alors cet extrait d'un premier disque consacré à ces symphonies françaises, il y en aura un deuxième qui est encore en préparation. Sous le label Aparté.
Voilà, il y a un deuxième volume de notre intégrale des symphonies parisiennes de Haydn qui sont mêlées à chaque fois à des œuvres contemporaines parisiennes. Et là, il y aura une symphonie justement d'un compositeur qui s'appelle Guénin, Marie-Alexandre Guénin, magnifique compositeur, aussi dans cette veine d'ailleurs, Sturm und Drang, dans les années 1778, et le 17e concerto de Mozart avec Justin Taylor au pianoforte.
Et avec bien sûr votre ensemble, le Concert de la Loge, dont on n'a plus le droit de dire le nom complet. On va pas refaire le procès parce que maintenant c'est terminé, il n'y a plus possible de revenir en arrière. Le titre d'origine c'était le Concert de la Loge Olympique, mais voilà. On n'avait plus le droit d'utiliser ce mot-là à cause du comité olympique. Moi je me disais qu'avec Paris 2024, ils allaient un petit peu s'adoucir.
Mais justement, non, justement, ils se disent d'autant plus qu'on va profiter d'eux.
On ne sait jamais si une symphonie de Rigel pourrait faire une concurrence aux compétitions des Jeux Olympiques 2024. Bah oui, c'est un peu c'est le mystère. Alors en tout cas, c'est votre ensemble, un ensemble à géométrie variable qui est tout jeune. Hein.
Absolument, deux ans et demi.
Voilà. Donc, et qui s'occupe principalement de ce répertoire-là, la musique de la fin du, on va dire, 18e siècle.
Oui, alors disons qu'il y a le cœur du projet artistique qui est vraiment autour de cet orchestre, puisque le Concert de la Loge Olympique, c'était vraiment l'orchestre de référence à Paris à partir des années 1780. C'était l'orchestre chouchouté par Marie-Antoinette, dont tous les grands musiciens pédagogues faisaient partie pendant cette décennie, avant la Révolution. Et notre ambition, c'est vraiment de faire revivre cet orchestre qui a été vraiment laissé pour compte, oublié, mais qui a tout de même commandé directement à Haydn 9 symphonies, les 6 symphonies parisiennes et 3 autres symphonies, à des œuvres à Salieri, à Cherubini, on le disait à Rigel, à Guénin. Et donc voilà, mon envie, c'est vraiment de faire revivre cet orchestre. On va faire des publications, on a un comité scientifique, on travaille vraiment de manière quotidienne sur l'histoire de cet orchestre en essayant de retrouver des archives, des traces.
Ah oui, c'est carrément une petite entreprise.
Ah oui, c'est absolument, enfin c'est presque de l'archéologie, hein, parce que beaucoup de sources sont disséminées dans Paris et dans de nombreuses bibliothèques en France ou Washington et Londres, puisqu'il y a un très très important catalogue de la musique de l'orchestre du Concert de la Loge Olympique qui est à Washington, de la musique vocale, et à Londres, c'est la musique instrumentale. Donc tout a été disséminé après les révolutions, dans des ventes aux enchères. Heureusement, on a quand même 4 autographes des symphonies de Haydn, des symphonies parisiennes, à la Bibliothèque Nationale de Paris. Donc voilà, ça nous sert vraiment d'inspirateur. Et puis après, voilà, c'est même si cette période, c'est le cœur de notre projet artistique, ensuite, évidemment, je ne m'empêche pas du tout de faire de la musique baroque et de faire de la musique romantique.
Tant que la musique est belle, après tout, absolument, c'est ça qui compte, et qu'on la fait bien. Alors là, au Festival des Promenades Musicales en Pays d'Auge, donc le 26 juillet prochain, vous n'emmenez pas votre ensemble. Vous partez tout seul avec le violon sous le bras et un compagnon, le pianiste Rémi Cardinal. Alors, vous allez jouer quoi là-bas?
Alors, on a un programme autour du glissement entre le 18e et le 19e avec la première sonatine de Schubert en ré majeur, la sonate Le Printemps de Beethoven et la sonate incroyable en sol majeur de Mozart, en deux mouvements.
Programme très classique.
Voilà, donc. Très classique, avec un piano forte absolument magnifique qui nous est prêté par Arc la Bataille, le festival là-bas, donc ça va être un très grand plaisir. Et les lieux qui sont choisis dans le festival sont absolument paradisiaques. Il y a une visite l'après-midi de l'abbaye du Val-Richer. Enfin, c'est dans des endroits, voilà, le Pays d'Auge, c'est un endroit auquel je tiens beaucoup. On y est allé plusieurs fois déjà par le passé avec le Quatuor et la Normandie en général. Mais là, c'est vraiment l'été, c'est vraiment le rêve.
C'est ça le plaisir aussi quand on est musicien d'aller jouer dans les festivals, c'est que ça nous sort un peu des salles de concert.
Absolument, ça nous permet aussi de rencontrer des gens, parce que là on va passer 3 jours avant, enfin pas 3 jours après, mais disons on y passe 3 jours, on vient pas juste l'après-midi et on joue. Donc ça permet vraiment de rencontrer les gens,
et d'être d'autres musiciens aussi, parfois,
oui,
d'aller écouter des copains.
Effet, oui, absolument. Oui.
Ou des musiciens qu'on connaît pas encore. On va vous écouter, nous aussi, Julien Chauvin, au violon, seul, presque seul, puisqu'il n'y a qu'un petit orchestre derrière vous.
Thank you.
Le final du concerto pour violon de Joseph Haydn, concerto en sol majeur, Hoboken 7A4. J'adore, c'est toujours des noms de code avec la musique de Haydn. C'était vous qu'on entendait, Julien Chauvin, au violon solo, avec les musiciens du Cercle de l'Harmonie, l'ensemble de Jérémy Rohrer, dont vous avez fait partie pendant de nombreuses années, avant de prendre votre envol et de voler de vos propres ailes avec le concert de la Loge. Comment elle se répartit aujourd'hui, votre carrière entre violon et direction? Plus en plus de direction quand même.
Oui, mais c'est quelque chose qui, d'une part, qui se fait naturellement. Je force absolument rien. Les choses, voilà, viennent dans le sens logique. C'est vrai que quand on est instrumentiste, c'est quand même tout à fait autre chose de diriger sans baguette. Hein, je parle parce que c'est vrai que la plupart des projets, je dirige du violon. Quand c'est possible, quand c'est l'opéra mise en scène, voilà, et qu'il y a une fausse, par exemple, là, c'est quand même un
peu
plus compliqué.
Les chanteurs, ils aiment bien avoir des vrais gestes,
voilà,
quand même.
Voilà, c'est un peu plus compliqué. Là, on a fait Phèdre de Lemoine au Bouffe du Nord, mais c'était une transcription pour 10 musiciens, donc, et on était sur scène avec les chanteurs, donc c'était un peu différent.
J'en profite pour faire une petite promo à Phèdre de Lemoine qu'on a diffusé sur France Musique, d'ailleurs, en entier, le dernier mardi du mois de juin, donc c'est un concert qui est toujours
absolument
à réécouter sur notre site internet francemusique.fr.
Une œuvre, vous le disiez là, par rapport à Richel, mais une œuvre aussi incroyable d'un français totalement inconnu, d'une très très grande densité.
Mais... Donc voilà, de la direction,
voilà,
toujours plus, mais on laisse faire les choses.
Oui.
D'ailleurs, en parlant de direction, cet été aussi, la direction de l'Orchestre français des jeunes.
Oui, alors voilà, j'ai la grande chance, on va faire en préambule, parce que Fabien Gabel reprend la direction de l'Orchestre français des jeunes à partir de la fin août, et on va faire avec l'Orchestre français des jeunes qui va être divisé, parce que l'orchestre est énorme, hein, mais il y aura deux orchestres, comme à l'opéra, les bleus et les verts, dans une symphonie de Haydn, la symphonie militaire, et la symphonie Paris de Mozart, et on va faire voilà une session sur le style classique.
Est-ce qu'on sait, Julien Chauvin, exactement à quelle période on a justement arrêté de diriger du violon, à quelle période on commence vraiment à prendre la baguette?
C'est bien le problème, c'est que même s'il y a eu des ouvrages et des gens qui s'y sont penchés, ça reste très flou, même dans les dénominations de l'époque. Quand on parle un tel a dirigé le concert, ou diriger ne voulait pas dire debout avec une baguette. Et finalement, alors beaucoup de gens s'accordent à dire que à l'opéra, c'est dans les années 1820-1830. C'est-à-dire qu'avant, comment faisait-il donc? Parce que aussi, on a très peu d'iconographie à la fin du 18e. Donc c'est sujet à beaucoup de mystères, finalement.
D'interrogation.
Mais je pense que, alors, ce qui est certain, c'est que au début du 19e siècle, on a retrouvé beaucoup de partitions, notamment à l'opéra de Paris, où il y avait un violon conducteur. La partition, c'était un violon conducteur, c'était une partition de violon agrémentée de lignes supplémentaires un peu partout, pour savoir que là il y a l'entrée de clarinette, là il y a l'entrée de cor. Donc en fait, c'était des mini partitions d'orchestre et des partitions de violon agrandi.
On peut supposer que peut-être le violoniste utilisait son archet déjà.
Alors
pour faire des signes.
Alors l'archet, c'est formidable, hein, parce que c'est, d'une part, c'est très grand, c'est très long.
On peut taper sur la tête
des
musiciens qui font pas correctement.
Et puis ça se voit de loin. Mais je pense qu'en effet, il y a énormément d'œuvres qui peuvent être jouées sans chef, toujours dans cet esprit de responsabiliser et d'engager plus les musiciens qui sont concernés.
On va écouter de la musique où, de toute façon, la question ne se pose pas puisqu'il n'y a pas de chef. C'est le quintet à cordes de Michael Haydn. C'est votre premier choix ce matin, Julien Chauvin. Thank you. L'Adagio cantabile du quintet à cordes en ut majeur P108 de Michael Haydn, interprété par les musiciens de l'ensemble L'Archibudelli. C'était votre choix, Julien Chauvin. Pourquoi vous vouliez nous faire écouter cette pièce-là et par cet ensemble-là ?
Pour le matin, je trouvais que c'était pas mal de commencer par cette, c'est une cantilène, c'est un chant d'amour entre le premier violon et le premier alto, puisque c'est un quintet à deux altos. C'est une musique que je trouve absolument merveilleuse, divine, du frère de Joseph Haydn, qui était totalement éclipsé. Il a écrit quand même 800 œuvres, beaucoup d'œuvres religieuses, mais voilà, il y a quelques bijoux comme ça, je pense, dont on peut pas se passer.
C'est d'humeur amoureuse, vous, le matin, au réveil.
Alors, ça dépend.
ça dépend,
mais... Mais là, je sais pas, j'avais envie.
Julien Chauvin, il y a une petite anecdote à raconter quand même, c'est que l'altiste qui joue sur ce disque, il joue à l'envers et avec des doigts en moins, c'est bien ça ?
Oui, alors c'est c'est ça. C'est donc Jürgen Kussmaul qui a eu un accident de voiture il y a de nombreuses années, qui s'est coupé les deux doigts, quatrième et cinquième doigt de la main gauche. Donc pour un violoniste, c'est quand même absolument tragique. Et donc il a tout réappris en portant l'instrument de l'autre côté, donc à droite, et en tenant l'archet avec trois doigts. Et oui, ce que je vous disais, c'est que il a une sonorité absolument magique, mais disons qui extrêmement spéciale, qui vient un peu, qui vient vraiment d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment c'est quand même un challenge absolument incroyable de se dire, après avoir tout étudié pendant 25 ans, de changer de côté et d'enregistrer après quand même 50 disques. Parce que c'est pas juste de jouer dans sa chambre.
Il faut retrouver le
Faut tout reconstruire.
Alors, avec un bras qui était habitué à mouvoir l'archet, quoi.
Alors, bon, je pense que certains chercheurs du cerveau vont dire que, en ayant appris d'un côté, il a déjà fait, je sais pas, 50-60%
du travail.
Il n'en reste que voilà, c'est incroyable.
D'ailleurs, il y a des musiciens qui jouent du violon à droite sans avoir eu un accident.
Alors,
des gauchers.
J'en ai connu un seul. Non, les gauchers, ils doivent jouer comme tout le monde, malheureusement. Donc, ils ont plus de force avec la main gauche, disons. Ouais. Ils ont plus de dextérité, peut-être. Non, j'ai connu juste un musicien dans le quatuor Castagnieri qui jouait il y a 20 ans, enfin, qui joue toujours, mais que j'avais vu il y a 20 ans et qui joue à droite. Dans le quatuor, c'était pas mal. Ça faisait une vraie stéréo avec le premier violon. Ils étaient en face.
En même temps, dans un orchestre, ce serait pas pratique s'il y avait des violonistes qui jouent un à droite, l'autre à gauche.
Oui, non, c'est compliqué.
Il y aurait des coups d'archet qui s'entrechoqueraient. Ça serait un petit peu compliqué. Avec tous vos ensembles, Julien Chauvin, que ce soit avec le Cercle de l'Harmonie il y a quelques années, avec le Concert de la Loge, avec le Quatuor Cambini, et puis on a bien compris à travers votre programmation musicale ce matin, c'est vraiment le répertoire qu'on appelle classique qui vous plaît. Il n'y a pas une certaine monotonie au bout d'un moment à faire classique.
Non, mais on fait pas exactement que ça non plus, mais je crois que c'est une musique dans laquelle je peux dire que je suis né dedans, mais vraiment c'est une musique qui me correspond. Je pense qu'il y a
c'est pas une musique qui manque de
que
surprise
des merveilles
parfois.
Quand vous jouez la surprise de Haydn, non.
Bonne réponse.
Non, pas du tout. Je pense qu'il faut juste la faire entendre vraiment avec le cœur et en tirer tout ce qu'il y a du matériau, parce que c'est vrai que c'est, quand on regarde par exemple les conducteurs des symphonies de Haydn ou de Mozart, c'est vrai que c'est finalement assez simple comme texture. On a souvent les deux hautbois, les deux cordes, bon, après un peu plus la flûte, les bassons, mais c'est une musique qui est extrêmement pure, donc il faut arriver à tailler un peu ce bijou.
À tailler le diamant. Pourquoi justement puisque cette période classique, elle est quand même très populaire d'une certaine manière. C'est une musique qui est à peu près aimée par tout le monde. Je crois pas avoir rencontré de personnes qui me disent « je n'aime pas Mozart », par exemple. Mais alors, comment ça se fait que nos compositeurs à nous, qui ont écrit dans ce style-là, dans cette patte-là, dans classique, pourquoi ils sont complètement oubliés alors que on a Mozart et Haydn absolument à tous les concerts, partout autour de la planète.
Oui, mais là, ils ont fait fort aussi, hein. Mozart, Haydn. Mozart pour l'opéra, vraiment. Haydn pour le...
Vous voulez dire que Rigel, c'est quand même pas Mozart ou Haydn, c'est
non,
ça?
Non, mais... je veux dire qu'ils ont fait fort parce qu'ils ont vraiment mis une chape de plomb sur toute la musique européenne. Donc c'est... Tous les autres compositeurs ont été évincés. En France... on considère que entre 1770 et disons jusqu'à Berlioz, jusqu'à récemment, voilà, on pensait qu'il n'y avait pas de musique. Il y a un répertoire absolument dingue. Hein. Il y a plus de 2000 quatuors en 20 ans. Donc, c'est pour moi c'est une mission véritablement de faire redécouvrir ces compositeurs qui sont. Il faut pas les comparer. Hein. C'est comme l'opéra. On parlait de l'opéra. On a beaucoup parlé de ces opéras de Sacchini notamment, ou l'opéra de Lemoine, ou certains opéras de Gluck. Dès qu'on compare à Mozart, en fait, on n'est pas dans le bon état d'esprit. Il faut pas comparer. En France, c'était le théâtre en musique. C'était les chanteurs n'étaient pas juste là pour faire beau. Évidemment, quand on joue deux notes de Mozart, c'est sublime et on le joue à n'importe quel tempo, hyper lent ou hyper rapide, ça restera toujours très beau, alors que de la musique française, ça s'étiole beaucoup plus vite, parce que s'il n'y a pas le drame, s'il n'y a pas le théâtre, eh ben on n'a pas l'essence de la musique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les comparer.
De la musique française, on en aura encore plein à redécouvrir grâce au concert de la Loge et à vous, Julien Chauvin. Mais puisque c'est Mozart qui gagne, c'est Mozart qu'on écoute. De la grande partita de Mozart, la sérénade numéro 10, célèbre grande partita interprétée par les musiciens de l'orchestre du XVIIIe siècle sous la direction de Franz Bruggen. Ça aussi, c'est un de vos choix ce matin, Julien Chauvin. Alors là, on parlait de musique pure, là, on en a l'image absolue.
Voilà, je crois que, en effet, on peut dire que c'est un contrepoint extraordinaire. Mais voilà, trois notes suffisent. Alors ce qui est extrêmement beau dans la version que vous avez choisie, mais bon, ça me touche aussi parce que c'est des Hollandais. J'ai passé 5 ans de ma vie en Hollande à écouter en effet Bruggen pendant nombreux concerts, ces musiciens, Q et Bing, qui est le oboïste qui joue là, et sûrement Eric Oprich à la clarinette. Enfin, ce qui est extrêmement touchant surtout, c'est que ce n'est pas parfait, c'est que ces vents, les vents de la fin du 18e, on peut absolument pas tout faire avec, et on est obligé, c'est forcément un peu faux, c'est forcément malhabile, l'instrument est encore en développement, mais c'est maladresse et ces grains de sable en fait qui font que c'est extrêmement touchant. Et c'est vrai que ça correspond aussi à l'enseignement que j'ai reçu de Vera Betts et Daniel Bilsma. En prenant un peu de recul, parce que j'ai été extrêmement, et je le suis toujours d'ailleurs, inspiré par ces musiciens, mais une note fausse, ou deux, ou cinq, dans un concert, dans un disque, c'est ce qui va vous ramener un petit peu à la réalité. Bien sûr, c'est bien de rêver, mais c'est
ce qui fait le charme. On dit voilà, toujours que quand on regarde un beau sourire, c'est un sourire avec une dent un petit peu tordue. Faut pas avoir le sourire
voilà,
Colgate, c'est pas charmant. C'est beau, mais pas charmant.
Mais en tout cas, c'est de grande partita, c'est une œuvre là vraiment aussi incroyable. Les vents sont à l'honneur et ils seront à l'honneur dans un concert prochain que nous donnerons cette semaine aussi.
Alors c'est-à-dire cette semaine, même dimanche.
C'est dimanche
que vous donnerez avec le concert de la loge au Festival de Radio France.
C'est ça.
À Montpellier. Ce sera dimanche à 20h30. Il y aura aussi des extraits de la grande partita.
Non, il y aura pas d'extraits de la grande partita. Mais vous savez que Mozart, même s'il est venu et qu'il a jamais vraiment réussi à percer à Paris, c'est quand même un des grands mystères. Il est toujours arrivé un peu tard dans la saison à Paris pour être véritablement programmé et joué par les musiciens français. Donc son dernier passage était en 1778, où la symphonie concertante, qui est un genre typiquement parisien, qui met en valeur plusieurs instruments ensemble, plusieurs instruments solistes. Et c'est à Paris d'ailleurs, c'est l'organisateur de spectacle Le Gros qui va commander à Mozart la symphonie concertante pour vent, et dont aussi bien sûr Mozart va s'inspirer pour sa symphonie concertante à lui, d'autres œuvres en effet dont la grande partita. Joseph Haydn va écrire une très belle concertante, et là nous jouerons une symphonie concertante de François de Vienne, qui était le flûtiste du concert de la Loge Olympique et compositeur très connu à l'époque, pour ses œuvres, pour vent notamment. Donc on va en jouer une pour la première fois sur instrument ancien.
Dimanche 23 juillet à 20h30 au Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival de Radio France Occitanie. Montpellier, un concert qui sera diffusé bien sûr sur France Musique. On va rappeler aussi, Julien Chauvin, que vous serez au violon tout seul avec le camarade Rémi Cardinal au pianoforte au Festival des Promenades Musicales en Pays d'Auge, quelques jours plus tard, le 26 juillet, à partir de 16h. Et puis pendant qu'on en est dans les dates, quelques dates aussi de festival au mois d'août, avec le concert de la Loge le 12 août et le 13 août. Le 12, c'est au Festival de Musique en Sol de Pono, et puis le
Pona,
13 oui. de Pona, pardon,
oui.
Et le 13 août au Festival Mille et Une Notes, ça je crois que c'est du côté de Limoges.
Ça, c'est dans Limousin, oui, dans un tout petit village.
On parlait de la partita, de la grande partita de Mozart à l'instant. C'était écrit pour quel usage, cette musique? C'était de la musique pour des salles de concert, pour des salons?
Non, c'était de la musique de réception en fait. C'était de la musique plutôt jouée dehors. Là, c'est une pièce vraiment, l'adagio, c'est une pièce quand même très intimiste, je dirais. Mais les autres mouvements, les menuets, les allegros sont très... sont très
plus vifs,
oui, très vifs, des sonorités avec les hautbois très très incisives, donc ça devait sonner. C'est pour 13 instruments, des cors anglais, des cors de basset, des clarinettes. Donc oui, c'était fait pour sonner, mais pas pour des salles de musique.
C'était pour accompagner des petits cocktails, par exemple.
Voilà, pour déambuler. Je me souviens plus exactement la grande partita, mais oui, en tout cas, ça sonnait bien dehors les vents. Ouais.
Dire que les spectateurs, enfin les auditeurs
qui
entendaient ça, et peut-être qu'ils se posaient même pas la question, ils étaient en train de discuter entre eux,
absolument,
de manger des toasts, et ils se rendaient pas compte qu'ils avaient la plus belle musique du monde à côté d'eux.
Mais bon, je pense qu'il peut-être quand même s'en rendait compte, mais Mozart a justement le génie de, pour certaines œuvres de circonstances, d'écrire des œuvres uniquement de circonstances, qui sont là vraiment pour plaire au public, et puis de temps en temps, il met un mouvement ou deux qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas faits pour plaire, mais qui sont faits pour émouvoir vraiment. Et puis, pour toucher.
En parlant de la réception, de la question de la réception, de la musique, du concert, de la situation du public, je crois que ce sont des questions qui vous intéressent beaucoup avec le Julien
Absolument.
Chauvin, avec le concert de la Loge. Vous avez même dit à Opéra Magazine, c'était il y a quelques mois, que vous vouliez complètement exploser, faire changer la forme du concert.
Justement, si vous venez dimanche, Clément, à Montpellier, le concert va être en trois parties, d'une part. On commence, vous savez, à l'époque, on au concert spirituel, notamment, et au concert de la Loge Olympique. On commençait toujours par une symphonie de Haydn. Haydn était le compositeur le plus joué, le plus connu à partir des années 1770. Il y a plus de 32 symphonies qui ont été jouées à Paris contre une de Mozart jusqu'à sa mort. Donc les concerts commençaient toujours par une symphonie de Haydn et terminaient. Là, on va donc commencer le programme à Montpellier par deux mouvements de la symphonie L'Ours. On va terminer le programme en troisième partie par les deux derniers mouvements de la symphonie de L'Ours. Et au milieu, on va faire une symphonie concertante, donc je le disais, de Vienne. Et là, à l'époque, les usages étaient quand même très différents. C'est-à-dire que dans la symphonie concertante, bien sûr, ils jouent de temps en temps ensemble, mais chacun a des solos, notamment dans le deuxième mouvement, qui est un mouvement à variation. Donc chacun, ça commence par la flûte, ensuite il y a le bois, ensuite il y a le basson et le cor. Et en fait, à chaque fois entre les deux, il y a des petites ritournelles d'orchestre. Et ces ritournelles, elles étaient faites pour les applaudissements. C'était comme au jazz, quand le batteur a fini son solo.
On applaudissait entre les mouvements.
Voilà, alors là vraiment, on va les faire. Mais avec Arnaud Merlin, justement, qui va présenter le concert, on va les faire bouger un peu. Et notamment, ils viennent devant, ils se lèvent. Et la tradition était vraiment différente, extrêmement différente à l'époque. Et du coup, on va essayer de réintroduire un tout petit peu de spontanéité. Si les gens ont envie d'applaudir, mais même pendant la musique, mais qu'ils le fassent et qu'ils le fassent bruyamment pour signifier aux bassonistes.
Sinon, vous faites, vous savez, comme dans les émissions de télévision, vous faites avec des panneaux applaudissez.
Comme on ça, va peut-être les faire aussi.
Pour le public. Pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Il va être temps de se quitter, Julien Chauvin. Yes. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il faut être franc-maçon pour entrer dans le concert de la Loge?
À l'époque.
Ah.
À l'époque, 95% des musiciens sont francs-maçons. C'est-à-dire qu'on était dans un tout autre environnement social. C'était une manière, quand les musiciens arrivaient de l'étranger, de s'intégrer plus facilement, d'être joués. De nos jours, ça a totalement changé. Il suffit
d'être bon musicien.
Il suffit d'être bon musicien, surtout d'avoir un bon esprit. L'esprit, en fait, est important. Hein. En musique, vous savez, il n'y a pas que le niveau, il y a surtout l'esprit. Mais ça a beaucoup changé.
C'est même peut-être ce qui est le plus important. Merci, Julien Chauvin, d'être venu nous voir ce matin.
Merci.
Le 23 juillet, c'est avec le concert de la Loge au Festival de Montpellier, en duo avec Rémi Cardinal, le 26 juillet, au Promenade Musicale du Pays d'Auge. On se quitte avec un dernier extrait de votre disque des symphonies parisiennes de Haydn, la symphonie La Reine de France. Thank you. Le final, pour pas dire la fin de la Reine de France, mais le final de la symphonie, la Reine de France, symphonie de Joseph Haydn, interprétée par le Concert de la Loge et son chef Julien Chauvin. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.